Il est 19h sur le 100.5 de Radio G et l'heure que vous voulez, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb et ce soir on va parler de Magical Girl, de magicien, de futur maître du monde, de dinosaures, de robots géants et peut-être d'autres trucs, voire même de héros de guerre méconnus. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Seb au micro, on va passer une heure ensemble. On va vous propulser directement dans le cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Pas trop le comics ce soir quand même. Par le truchement des ondes radiophoniques. Super. L'intro à peine ratée pour la première de 2025. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va et toi ? Bonjour à tous.
Et puis meilleurs vœux, hein ?
Eh bah, ben pareillement.
Eh ouais.
Cette nouvelle année qui a bien commencé.
Bah oui, pour l'instant, ça va. Hein.
Comme le départ, on dit
ouais,
ça.
C'est que le début, ça va bien se passer. Donc voilà, bah on parle de plein de trucs. Par quoi on commence je sais pas, t'as une envie particulière? Moi je peux parler de dinosaures avec des BD pour enfants.
Eh bah écoute, vas-y.
On peut y aller sur les dinosaures?
On y va sur les dinosaures, c'est parti.
Allez, les dinosaures, moi j'en ai deux. J'ai deux albums complètement différents. Je vais commencer avec, je sais même pas, t'as une préférence sur les deux?
J'aime bien Dino 10.
Dinodyssée.
Dinodyssée.
Ah, pardon.
J'avais pas les dernières lettres.
Dinodyssée, les copains d'abord de Goubelli et Gates. Je suis pas sûr de le prononcer. C'est écrit GAETS.
Je vais pas t'aider.
On va dire Gates. De quoi ça parle? C'est un, je vais te la passer. C'est une BD qui est publiée aux éditions du Lombard. Comment résumer ça? On suit, un petit vélociraptor qui s'est fait un petit peu bouler par ses deux frangins qui considèrent qu'il est un petit peu nul. Alors, effectivement, il est un petit peu nul parce que il n'est pas... comment dire ? Pour un vélociraptor, il n'est pas très très véloce, hein. Il a tendance à louper des choses et surtout à ne pas aider ses frangins à bien chasser. Donc du coup, il s'est fait bouler par ses frangins. Et puis, il va s'associer à un autre petit dino qui lui aussi est un peu en déprime. Et ils vont tenter de retrouver Anki, l'ankylosaure, un sage dinosaure, qui... pour lequel on va lui poser des questions. Pourquoi ? Quelles sont les questions que ces deux dinos vont vouloir lui poser ? Eh bien, il y a deux mammifères, deux espèces de petites souris façon suricate, qui ont dit que les dinosaures allaient probablement mourir en se prenant des boules de feu sur la tronche.
Les médiums de l'époque.
Peut-être, on ne sait pas. Et du coup, en fait, on a ces dinos qui vont, au fil de leur odyssée, rencontrer d'autres dinos qui vont se poser des questions existentielles. C'est rigolo parce que ça parle de différence. Ça pourrait être des enfants au lieu d'être des dinos. Ça se passe au Jurassique, hein, donc je suis pas expert en dinosaures, mais donc il y a plein de différences entre un dinosaure et un enfant, mais on a ce comportement, ce côté très très enfantin de ces dinos qui est super cool. Il y a des méchants, il y a des adultes qui les envoient bouler au fur et à mesure, comme dans la vraie vie. Et puis, je sais pas, il y a pas mal d'humour, il y a un narrateur. Alors, je suppose que le narrateur et le moustique sont la même personne, même si c'est pas clairement dit, ou alors si j'ai pas vraiment fait attention, qui fait des vannes, qui discute avec nous, qui discute aussi avec les dinos. C'est super cool. Et puis, graphiquement, c'est vraiment chouette. On a un côté très pop, crayon de couleur. Les dinosaures, ils ont des traits pas très anguleux, c'est très rond. La première fois que j'ai vu la couve, ça m'a fait penser à Gigantosaur. Je sais pas si tu vois ce dessin animé.
Non, je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est quand tu m'as montré les deux couvertures, c'est ça qui m'a amené à choisir celui-ci, parce que j'aime bien ce petit côté en effet pop crayonné là, comme tu dis. Je trouve ça très sympa. Et en parcourant un peu les pages, ouais, j'aime bien le style.
Ouais, c'est tout mignon. On s'accroche. Je pourrais dire que c'est des dinosaures à gros nez. On a le style gros nez bande dessinée. Là, on a des dinosaures qui ont un gros nez et ça passe bien. C'est drôle, c'est frais, c'est vraiment sympa à lire. Voilà, c'est un tome 1. Il y aura bien sûr autre chose derrière parce que on va nous raconter certainement plus de choses puisque la fin du voyage n'est pas aboutie à la fin du tome. Mais c'est vraiment très cool, c'est vraiment très sympa. Et puis ouais, ils sont cool les petits dinos, moi je trouve. Voilà, c'est Dinodyssée de Goubelli et Goetz, tome 1, Les Copains d'abord, et c'est aux éditions du Lombard. Je vais rester sur les dinos, mais alors carrément autre ambiance, avec Pas de lézard, Nueva Lutetia, pardon, publié chez Oxymore, collection Luciole, de Pog, Carita et Davier. Je te le passe, voilà. Alors, là, ça va vous demander un petit effort d'imagination parce que le synopsis n'est pas aussi simple qu'on pourrait imaginer. Il faut imaginer un monde où les dinosaures ont continué d'évoluer conjointement avec les humains. On s'est retrouvé dans un monde où il y a grosso modo trois types de dinos. Les dinos humanoïdes qui peuvent s'intégrer. Les grands dinos, quatre types de dinos, pardon. Les grands dinos qui ont une utilité. Les tout petits dinos qui n'ont pas suffisamment d'intellect et qui sont plutôt considérés comme des animaux de compagnie. Et puis les dinosaures qui sont restés sauvages. Et en gros, on va suivre cette ville de Nueva Lutetia qui se protège des dinosaures sauvages grâce à un gigantesque mur. Un mur qui demande beaucoup d'énergie, puisque tous les habitants de la ville doivent contribuer à cette énergie, chacun a une sorte d'impôt énergie à faire. Et à l'intérieur de cette ville, il y a aussi des dinosaures qui peuvent servir de taxi ou d'élévateur. Imaginez je sais plus le nom du dinosaure qui a le très très long cou, mais voilà, comme exactement la page où tu es, tu vois.
Diplodocus, c'est ça, non? Je sais plus si c'est sûr.
Ouais, Diplodocus, Brachiosaure, je crois qu'il y en a plein dans le même style, mais j'ai plus le nom exact. Et puis on a des dinosaures grosso modo humanoïdes qui discutent avec les gens, qui peuvent interagir, mais qui sont globalement, souvent mal vus par le reste de la population. Et on suit les débats politiques de cette ville, puisque le maire actuel est plutôt tolérant, considère qu'il faut accueillir les dinosaures évolués et humanoïdes parce que ça peut avoir un intérêt pour la ville. Et puis, il y a son opposant principal qui considère que non, ils viennent, ils nous piquent notre travail. Toute situation similaire avec des choses existantes dans la vraie vie ne serait absolument pas fortuite. Et puis on va suivre l'histoire en fait de deux protagonistes, un jeune garçon handicapé en fauteuil et un jeune dinosaure qui vont aller dans la même école. Je vais pas en révéler plus sur l'histoire parce que c'est intéressant. Déjà tout le contexte, c'est important à regarder, mais c'est super super cool à lire. C'est un peu plus, je vais pas dire cartoon, mais plus dessiné que Dinodyssée. Alors, pas que Dinodyssée manquait de détails, hein, mais on a vraiment, c'est une autre identité visuelle. Je sais pas comment le dire.
C'est pas du tout le même style de dessin. Je dirais presque que c'est plus classique que l'autre.
Ouais, c'est ça que je cherche
sur de la BD un peu plus classique. J'ai l'impression, en tout cas, même si moi je connais pas trop la BD, hein, mais que l'autre où vraiment on est plus sur du crayonné, du pastel, qui est un petit peu différent.
Ouais. Pour le coup. C'est vraiment ça, on a des cadrages aussi, une construction qui est différente et qui est beaucoup plus classique, mais qui est quand même hyper intéressante. Et les personnages sont cool. Ça parle de différence sans forcément appuyer au forceps dessus. Bah, le petit garçon, il est handicapé. Bah, ça met des situations qui font que. Mais on n'est pas en train de se larmoyer. Oh là là, mon Dieu, il est handicapé. Non, à aucun moment. Le trait, il est peut-être un petit peu forcé sur la partie politique, mais on a des personnages politiques qui s'expriment beaucoup, donc c'est peut-être ça qui peut un petit peu qui force un peu le trait, mais sinon c'est quand même vraiment bien cool. Donc voilà, pareil, c'est un début de série. Le jeune garçon héros a perdu son papa d'une manière ou d'une autre, et il y a un petit cliffhanger à la fin de la BD qui amène une suite. Et qui pose encore quand même beaucoup de questions. Voilà, voilà pour les dinosaures. Donc ça, c'est pas de lézard, c'est Nueva Lutetia, c'est aux éditions Oxymore, collection Luciole, et c'est de Pog, Carita et Davier. Donc, ça, c'est bien cool. Voilà, voilà. Je savais pas quoi mettre en musique. Je suis désolé auprès de Julien qui fait la programmation musicale pour Radio G. Je vais mettre un truc. Tu vas pas du tout aimer, mais parce que c'est beaucoup trop populaire et on l'entend certainement beaucoup partout, mais c'est une chanson qui me fait bien marrer, qui me plaît bien. Donc je vais vous mettre Following the Sun de Super High et Nika. Ça te parle ou pas?
Non, je suis vraiment, moi la musique, je suis désolé, c'est voilà, j'en écoute mais j'ai du mal à retenir les noms.
C'est pas grave, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Super High, Nika, sur le 101.5 de Radio G. C'était Following the Sun. Je ne savais plus ce que j'avais à dire. C'est très 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 bizarre. On est toujours sur la case de Seb. C'est toujours Radio G. C'est toujours le 101.5. Et c'est le moment de Fabien qui va nous parler d'une BD.
Et ouais, chose rare, mais du coup, on a reçu une BD que j'avais demandé en service presse pour tester. Et donc du coup, j'ai pris le temps de lire ça.
Est-ce que je te mets ton générique manga quand même ou pas?
Comme tu veux.
Allez, on met un petit coup de générique.
Nani ? お前はもう死んでいる。
Je viens d'envoyer le générique, je précise, parce qu'on avait décidé qu'on le faisait quasiment systématiquement, que les deux premiers albums dont j'ai parlé, Pas de Lézard et puis Dinodyssée, ne sont pas des albums qui m'ont été fournis par l'éditeur. Donc c'est un avis complètement objectif, même si tous les avis qu'on donne sont objectifs, même quand les auditeurs nous fournissent les albums. Voilà. Désolé d'avoir empiété sur ta chronique.
Mais non, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Alors du coup, pour changer, pour ma toute première, donc je vais vous parler d'une BD qu'on a reçue des éditions Sarbacane, et qui est paru donc en octobre 2024, là, qui est toute récente, qui est en un seul volume, donc un one shot. Alors, je sais pas si on dit one shot aussi pour la bande dessinée, mais je pense qu'on peut.
Si, c'est du one shot.
Pour le coup. Et donc, du coup, qui est au dessin et au scénario, c'est Iwan Lepingle. Et donc là, on va être plutôt sur un policier, un petit peu, anticipation. Parce que du coup, en fait, on est en 2045, dans une petite ville écossaise de Shepkirk. Qui est soumis aux affres des montées des eaux, en fait, dû au réchauffement climatique. Et Wyatt, qui était le plus prometteur de la fratrie Calloway, avait une femme, enfant, diplôme, qui était bien parti pour plutôt bien réussir sa vie et peut-être un peu s'extirper de cette petite ville écossaise. Pas, en fait, à la différence de ses frères Travis et Badger, qui, eux, en fait, travaillent dans une usine d'algues invasives. C'est des anciens pêcheurs, mais dû au fait de la montée des eaux et des problèmes avec la mer, ils ont été obligés un peu de changer de métier. Et malheureusement, Wyatt, il décède sur une route toute droite. Il a un accident de voiture. Et du coup, c'est un peu l'incompréhension. Parce que pourquoi, comment Alors, c'est un accident qui est déclaré par la police. Mais son frère, un de ses frères, n'arrive pas à croire à l'accident. Et du coup, la police conclut à ça, une perte de contrôle. Mais Travis, pour lui, il y a quelque chose qui cloche. Il a un pressentiment, mais rien pour le prouver. Jusqu'au soir, en fait, où dans le bar du coin du petit village, il entend une conversation et c'est question d'un concours de billard remporté de justesse grâce à Joseph, le mécano, qui aurait débarqué en retard et sauvé la mise à ses coéquipiers. Mais du coup, son frère est arrivé, il a fait le truc et il a mis... Voilà, il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là, ça lui relève, il commence à poser des questions. Et il sent qu'il y avait une tension entre ce Joseph-là et son frère, et donc il va commencer à chercher un peu. Et petit à petit, il va essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé ou pas. Donc du coup, on va être sur un policier assez classique, dans le sens où... On va avoir une trame qui va se dégager, les protagonistes qui vont être rencontrés, des conversations de bar, de la découverte un peu d'indices à droite, à gauche. Le scénario, je l'ai trouvé bien ficelé, il fonctionne très bien. On se projette bien dans cette petite ville, on sent qu'on est vraiment un peu vraiment ville écossaise, un peu perdue hein, au milieu de nulle part. Les dessins d'ailleurs le montrent bien parce que on a des grands espaces, des assez vagues, la mer au loin, ce genre de choses. D'ailleurs, les dessins et les couleurs, je les ai trouvés vraiment très chouettes par rapport à ça. On a une palette orange bleuté qui ressort bien et qui est vraiment chouette. Et donc du coup après et puis avec ces décors en fait assez géométriques. Tous les bâtiments sont assez carrés. On a des petites choses comme ça. Le seul petit bémol que j'ai eu avec cette histoire, c'est qu'en fait, je vous ai dit que c'était en 2045, mais en fait si on le dit pas et si on le lit pas, on le sait pas. Clairement, on a ce côté anticipation, il est vraiment absent finalement, alors que je pense que ça aurait pu amener quelque chose de plus. Pareil, le côté réchauffement climatique, montée des eaux, finalement en fait on n'entend pas parler non plus. Ça amène rien de plus. Donc on va vraiment être sur cette histoire de policier. On a vraiment l'impression en fait d'être à notre époque, parce qu'il n'y a pas de technologie en plus. On a l'impression d'être à la campagne, vraiment dans la petite ville écossaise où en gros il se passe rien, mais où tout le monde se connaît, où les rumeurs peuvent aller bon train, où il y a des petites choses qui peuvent se passer, on sent des tensions entre certains habitants, ce genre de choses. Donc on va être plongé dans ce milieu-là et on va découvrir ce qui s'est passé au fur et à mesure du récit. Je vais pas en parler plus parce que du coup c'est un seul volume et c'est un policier, donc ce serait dommage d'en dire plus que ça. Mais pour le coup, j'ai apprécié. J'aurais aimé le petit côté anticipation un peu plus poussé, qu'on se serve, qu'on soit en 2045 un peu plus dans l'histoire peut-être, qu'on y trouve un petit intérêt supplémentaire. Mais ça a pas gâché ma lecture, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et j'ai pas mal accroché le dessin, même si c'est un style qui est complètement différent de ce que je peux avoir l'habitude de lire avec le manga. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça beau, en fait. Même si c'est particulier au niveau des traits, au niveau de la colorisation, même par contre le découpage je le trouve net, c'est propre et franchement ça fait vraiment le boulot. J'ai même été étonné parce que j'ai mon plus jeune fils de 12 ans qui m'a vu lire ça pendant les vacances et qui vient me voir et fait ah papa tu lis quoi et tout, je trouve ça super joli. Lui qui ne lit que du manga ou de la BD plus enfant à la Mortal Adèle ou ce genre de choses, donc qui a quand même pas grand chose à voir avec ça, parce que là on a vraiment les grands espaces qui sont... C'est bien dessiné, j'ai trouvé ça très chouette.
Et ouais, et pourtant le trait est assez particulier.
Oui.
J'ai toujours du mal en fait à juger, mais j'aurais tendance à imaginer que ça a été fait en numérique, parce qu'il y a cette espèce de petite touche en fait sur les visages, sur la façon dont c'est. Mais c'est toujours difficile.
C'est possible, mais du coup, moi, je trouve que ça change de certains numériques. Bah, par exemple, si on compare à Pas de lézard de tout à l'heure, qui est une BD classique, on sent plus, je trouve, le côté numérique. Alors, ça se trouve, ça ne l'est pas. Peut-être que je me trompe.
Mais, je crois que ça ne l'est pas.
Ah, bah, tu vois, bah, je dis des bêtises, en fait, pour le coup. Mais où on est sur un style, je l'ai trouvé moins classique, sur Submersion, par exemple, avec des traits qui changent un petit peu. Alors après, moi, comme je dis, au niveau BD, je découvre tout. Donc, du coup, forcément, ça me sort de mon ordinaire. Mais j'ai trouvé cette lecture agréable. Et l'histoire tient bien la route, un policier qui se lit bien. Donc voilà.
Impeccable. Non, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien en te soumettant à cet exercice de la BD, c'est que t'as un avis frais que moi j'ai peut-être plus, parce que justement j'en ai lu beaucoup. J'ai tendance toujours à faire des comparaisons de l'une à l'autre que j'ai faites tout à l'heure sur les lézards. Alors j'aurais pas lu, hein, parce que c'est deux BD différentes sur un thème différent avec des ressemblances, mais ça c'est cool.
Ouais, non, mais j'ai apprécié, en tout cas. Et ça se lit assez vite. Finalement, il n'y a pas tant de texte que ça, donc on s'attarde un peu plus sur les planches. Donc, ce qui est aussi quelque chose d'agréable, parce que du coup, on sent des plans qui sont... C'est fait exprès, en fait, cette lenteur, je pense, aussi, pour se plonger dans ce côté vieille Écosse, un peu, qui correspond bien.
Parfait. Hop, tiens.
Alors, du coup, je donne... Hop là. Je te remercie. Donc, c'était donc Submersion. C'est Iwan L'Épingle, aux éditions Sarbacane.
Et c'est un... Tu sais que t'avais noté combien de pages ou pas?
Ah,
c'est un grand format.
Oui, c'est un format un peu plus important. Et il y a 124 pages. Mais oui, format plus grand. Oui.
Parfait, ouais. Autre temps, autre ambiance. Moi, je vais t'emmener, et vous aussi, chers auditeurs, en pleine Première Guerre mondiale. Je te laisserai du coup donner les références.
Ça marche.
Mais si vous êtes amateur de YouTube ou même d'Internet, peut-être que vous connaissez cette musique. Alors si c'est pas le cas, je vais vous la laisser en fond. Cette musique, c'est la musique qui est beaucoup utilisée par l'audio connard. C'est pas moi qui le qualifie comme ça. C'est Julien Henrieux, si je ne me trompe pas, sur la couverture.
Hervieux.
Julien Hervieux, qui se qualifie lui-même d'audio connard. Et il a créé une petite série qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations. Dans cette petite série, il prend des personnalités célèbres de la guerre, célèbres ou non, mais qui ont eu une carrière complètement dingo. Il a beaucoup d'humour, il utilise des images d'époque, il n'y a pas de texte. Juste du texte à lire, il n'y a pas de texte lu, et du coup c'est vraiment super drôle. Et il a créé, alors je crois que c'est chez au Lombard, une collection qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations. Là on est dans la collection Grand Angle, héros de guerre. Et avec Eric Stallner, ils ont choisi de publier Albert Roche, qui est un héros français. Pourquoi Albert Roche? Alors, ceux qui ont vu le petit théâtre des opérations lui concernant, puisqu'il en a déjà fait un, c'est un mec qui a une vie assez dingue. C'est un mec qui est un peu petit, qui n'a qu'une envie, lui, c'est s'engager dans l'armée pour pouvoir aller bastonner les gens d'en face et défendre son territoire. Il est recalé un certain nombre de fois avant qu'il y ait des médecins qui lui disent bon, « Ok, d'accord, je vois que tu veux y aller, tu vas aller faire tes classes. » Il va au centre d'entraînement. Au centre d'entraînement, tout le monde se fout de lui. On finit par lui dire bah, « Écoute, de toute façon, tu n'iras jamais à la guerre. » Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il décide de se barrer pour y aller quand même. On le chope et on le juge pour désertion. Alors que lui, il voulait y aller. Hein.
Oui, c'est particulier, là, quand même.
Ouais. Et parce qu'on le juge pour désertion, lui, il dit bah, « De toute façon, moi, je voulais absolument y aller. Je voulais pas déserter. Je voulais y aller. » On lui dit bah, « Écoute, ta punition, c'est que tu vas aller en première ligne. »
C'est ce qu'il voulait. Ce qui tombe plutôt bien pour lui.
Donc, tout le monde pensait que c'était une sanction, sauf que ce gars-là est un barjot. Il a peur de rien, il est là toujours au contact et il va vivre des dizaines de cas particuliers. Il va sortir d'une tranchée et revenir avec toute la section des militaires allemands d'en face, tout seul. Il a fait, lui tout seul, une section complète de prisonniers. Enfin, c'est complètement, son parcours est complètement barjot. Là où c'est intéressant, c'est que on aurait pu reconstituer un petit théâtre des opérations. Ce n'est pas le cas dans cette BD Héros de guerre. On nous raconte le parcours d'un soldat hors norme, d'un soldat qui a eu un vécu assez particulier, et on nous fait vivre aussi l'horreur de la guerre des tranchées. On est vraiment dedans. Il y a une double page que je vais te montrer si je la retrouve, qui est absolument géniale. On y voit en fait la guerre dans sa partie la plus large, la partie la plus crasse, c'est la nuit, il pleut, il fait froid, et on voit notre petit Albert Roche perdu au milieu, et la page nous fait vivre la pleine désolation de cette guerre qui a fait tant de morts, et c'est juste génial. Donc, ce que je trouve fabuleux avec cette BD-là, c'est que les deux auteurs ont su nous faire revivre la guerre hors de l'humour qu'avait le scénariste sur sa partie principale. Et c'est génial, parce que si vous n'aimez pas la guerre, suivez le parcours de ce petit bonhomme. Alors, je tiens à préciser que tout est véridique, hein, c'est vraiment aussi... Enfin, ce qui est dingue avec les histoires que vous allez avoir sur le petit théâtre des opérations, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est extrait d'un film. Non, c'est véridique, c'est sourcé, c'est romancé un petit peu, mais... Là, le gars, il a été tout seul. Hein. Et alors, c'est pas un spoil, mais sa fin de vie est triste. Vous verrez, faut le lire.
Ah, ça me donne envie de tester.
Ah bah écoute, c'est vraiment très très intéressant parce que voilà, j'aime pas les BD de guerre à la base. Là, j'étais curieux parce que je connaissais l'histoire sous le côté petite tête des opérations drôle. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pas simple de reprendre cette histoire-là et de refaire autre chose? Ben, c'est peut-être pas simple, et en même temps, c'est bien fait. Voilà. Donc, Héros de guerre, Albert Roche, France, de Julien Hervieux et Eric Stallner, c'est publié aux éditions Grand Angle, et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir le petit théâtre des opérations également. Voilà.
Super.
Elle va rester en tête envie. Longtemps, cette petite
oui,
musique.
Oui, la petite musique, là, en détente.
Je vais vous proposer de faire une. Je te propose, si tu es d'accord, une autre pause musicale, histoire de se laver un peu les oreilles de cette petite ritournelle. Ça va gratter un petit peu. C'est un truc que j'écoute quand même pas mal. Ça s'appelle Dopestar Inc. Et la chanson s'appelle Lies Irae. Mettez pas le son trop fort. Ça peut un peu décrocher le cérumen. We'll be right back. Dubstars Incorporated Lies Irae sur le 101.5 de Radio G. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que vous écoutez de la musique à la radio, vous imaginez un peu ce que je peux écouter dans ma voiture. Voilà, je vous partage tout ça. Vous en faites ce que vous voulez.
C'est
j'espère
cool.
Que moi vous découvrez des trucs. On est toujours dans la case de Seb et ça va être au tour de Fabien de nous parler du coup là dans ta zone de confort, un peu plus.
Oui, un peu plus dans ma zone de confort en effet. Et puis là, je vais parler d'un monument au Japon.
Oh là.
Qui a eu un peu de mal à percer en France. Non, mais quand on parle robot, très gros robot.
Goldorak ?
Non.
L'autre. Gundam.
Ouais, Gundam en effet. Donc en fin 2024, là, il nous est parvenu chez les éditions Vega. Mobile Suit Gundam Unicorn, donc en tome double. On a eu le tome 1 avec le deuxième qui va pas tarder à arriver.
Cool.
Et donc du coup, donc, comme je disais, c'est chez Vega. C'est sorti au Japon en 2006 avec 17 tomes. Et nous, c'est arrivé en gros tome double, bien imposant là. On en a 9 de prévu. Et donc, on a au dessin Yoshikazu Yasuhiko et Kozo Omori. Et le scénario, c'est Harutoshi Fukui. Bon, Gundam, donc on est sur de la SF, hein, clairement, là-dessus, pas de question à se poser. Du bon gros robot mecha avec finalement des pilotes à l'intérieur, hein, donc vraiment ouais, c'est ça, c'est pas, il y a pas d'autopilote ni rien, là on a vraiment des humains qui vont.
C'est des vaisseaux.
C'est des vaisseaux au final, c'est des armes pilotées, on va dire, mais des énormes robots. Ouais, c'est ça, c'est des vaisseaux.
Non, un piloté, c'est bien, ouais, ce que je
veux dire. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment pilotés. Et donc du coup, je vais faire un petit résumé de celui-ci, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Gundam, c'est vraiment une institution au Japon. Ça a eu un petit peu plus de mal à percer en France, étonnamment. Moi, je fais partie des personnes qui sont passées à côté. Je suis jamais rentré dedans, je ne connais pas, à part bien entendu l'aura que ça et un petit peu de quoi ça parle, mais je connais pas l'univers ni rien. Et du coup, bah, je suis jamais allé parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. J'ai jamais trop su me dire, bah, est-ce que je me lance là-dedans? Avec un crainte de dire, bah, c'est gros, il y a plein de choses, par quoi commencer, comment faire. Donc, je sais pas pour toi si c'est le cas aussi, ou si t'as vu, lu, ou par quoi tu connais plus Gundam.
Alors, oui et non, parce qu'en fait, moi, j'ai d'abord connu le pendant américain avec Macross.
OK.
Et en fait, Gundam, on est de la même génération. Peu ou prou, hein.
Oui, à peu près. Ouais.
Moi, je l'ai beaucoup connu sur M6, il diffusait Gundam Wing. Tu disais que Gundam, c'est très vaste. Et en fait, il y a plein de points d'accès. Je pense que Gundam Unicorn est peut-être plus adulte que Gundam Wing. Et il y a plein de possibilités, en fait.
C'est ça. Il y a plein de points d'entrée. Et donc, c'est ça, c'est savoir avec quel point d'entrée commencer et tout ça.
C'est ça.
Donc, moi, je me suis dit, bon, ils sortent... Il faut une réédition, je sais, bah allez, allons-y, je vais rentrer par là, on va voir de ce que c'est.
Est-ce que t'as réussi à rentrer dedans?
Ouais, j'ai réussi et ça m'a bien plu, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, clairement, hein, voilà, j'ai bien envie de continuer. Et donc celui-ci, de quoi il parle? En fait, on va être, après il y a eu plusieurs conflits qui ont opposé la Terre et ses colonies, et là la paix semble être revenue, en apparence seulement. Parce qu'en coulisses, il y a beaucoup de tractations qui s'opèrent autour d'une mystérieuse boîte de Laplace, un objet en fait qui pourrait renverser a priori le cours de l'histoire. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Et donc sur fond d'un complot vieux de près de 100 ans, il y a le spectre de la guerre en fait qui va ressurgir une nouvelle fois. Donc moi je me disais, celui-ci ça doit être un peu le départ et tout ça, donc je commence à le lire. Bon bah pas de bol non, puisqu'on est après les premières guerres, donc des Gundam d'avant entre guillemets. Donc je dis bon, bah c'est pas le tout début, bon, c'est pas trop grave, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Donc il nous pose un peu le contexte quand même sur les premières pages. Et finalement c'est pas gênant du tout, on comprend que, bah, comme je disais, hein, y a eu une guerre qui s'est passée, les factions qui se regardent un peu du coin de l'œil en chien de faïence à se dire bon, on va maintenir la paix, ouais plus ou moins, comment ça va se passer, on sent que ça va pas durer bien longtemps tout ça. Et donc, passer ces quelques pages un peu d'intro, on va vite rencontrer nos protagonistes. Donc, on va vraiment sur une histoire nouvelle, hein, je pense, entre guillemets. Donc, pas de souci pour moi de pas connaître, en fait, le reste. Alors, on commence à découvrir les mechas, on commence à découvrir tout ça. On est projeté forcément dans l'espace, hein, clairement, il y a que ça. Hein, on est tout de suite dedans. Et les premiers combats arrivent assez rapidement. Donc là, c'est plutôt cool parce que clairement, moi, c'était ça qui me donnait envie de découvrir. Hein. C'était vraiment ce côté méca et ce côté action-combat qui sont d'ailleurs bien mis en valeur par le dessin. Parce que les mécas sont vraiment bien classe.
Ouais.
C'est très dynamique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. L'histoire se pose bien, malgré tout. On a envie d'en apprendre plus sur... Alors c'est les New Hype, je vais dire une bêtise, donc je me souviens plus exactement, des pilotes qui auraient a priori des petits pouvoirs un peu particuliers, où en fait les humains commenceraient un peu à muter pour s'habituer à piloter et tout ça, et avoir des petits pouvoirs en plus. On sent que notre héros qu'on est en train de suivre, qui n'est pas du tout un pilote pour l'instant de Gundam, a un petit quelque chose qui fait que forcément ça va venir. Et il va vouloir défendre une jeune demoiselle, donc on va sentir un petit côté... je sais pas s'il va y avoir de la romance, mais on sent un duo qui va se former un petit peu, il va vouloir la protéger et tout ça. Et donc on va suivre ça, et ça va commencer à péter un peu partout. Et donc c'est plutôt cool, et moi j'ai bien apprécié, j'ai hâte de lire la suite. Alors ça pose vraiment, on sent que c'est un premier tome, même s'il y a les deux premiers volumes, hein, puisque c'est des tomes doubles. Donc c'est une introduction, mais qui donne envie de vraiment de découvrir la suite. Et moi j'ai hâte de voir l'unicorne en action. J'en dis pas plus pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Bon, de toute façon, sur la couve, on le voit, hein, on voit un gros Gundam, un gros mobile suit avec deux cornes, avec les cornes en avant. Donc voilà, vraiment hâte de découvrir un peu plus. Et qui sait, peut-être après continuer sur d'autres séries Gundam.
Ouais, ce sera l'occasion.
Ouais, tout à fait.
Pendant que tu parlais, j'étais en train de chercher combien il y avait de séries Gundam différentes. Alors je sais pas vraiment comment fonctionne Nautiljon, mais si je me base juste sur les mangas en référence avec Gundam, on est sur 113. Ouais. Ça commence à faire un peu.
Ça commence à commencer un paquet, ouais.
Donc ouais, c'est un monument, c'est un truc qui est assez dingue, Gundam.
Ça fait plus de 30 ans que je crois que ça existe. C'est un truc, quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, c'est une dinguerie là-bas. Ils ont des statues en taille,
oui,
en taille réelle.
Il y a
un Gundam taille réelle qui est énorme. Donc, non, c'est vraiment de la folie, hein. De toute façon, je pense que tout le monde a aussi entendu parler des Gunpla, donc les fameuses figurines Gundam. C'est des maquettes même. On n'est même pas sur des figurines.
On est sur de la figue.
On est sur de la maquette. Donc, c'est vraiment une institution là-bas.
Alors, c'est un petit peu plus vieux que ce que tu disais. C'est sorti pour la première fois en 79.
Ah oui, donc c'est plus vieux que moi. Ouais, c'est plus vieux que moi aussi, donc tu vois, voilà. Ouais. Donc j'étais loin du compte finalement, mais du coup, ouais, ça s'arrête pas. Il y en a toujours et ça fonctionne toujours.
Et pour redonner deux mots clés, peut-être attirer aussi les gens, c'est ce qui revient là sur les recherches que j'avais, c'est que c'est du manga de robots réalistes. Ils ont essayé d'avoir des robots qui physiquement correspondent en fait à ce qui pourrait être fait. Donc c'est pas des robots qui sont jolis, ils sont fonctionnels.
Non, exactement.
Même s'ils sont stylés.
Ouais, ils sont stylés, tout ça. Mais oui, c'est un point qu'il faut bien voir, c'est qu'on est sur de la SF, mais de la SF en robotique sans ordinateur ni rien. On est vraiment sur juste de la robotique. Il y a pas d'IA, il y a pas de tout ça. C'est vraiment les humains qui pilotent les Gundam. Donc, et ils ont vraiment tenu. J'avais écouté une interview de quelqu'un à ce que ça reste comme ça. A priori, ils commencent dans les tout derniers à peut-être commencer à mettre un tout petit peu d'IA qui viendrait un petit peu titiller dans les tout récents, de ce que j'ai entendu. Mais on est sur quelque chose qui se veut être réaliste, vraiment. Ça a été poussé très très loin. Tout ce qui est mis, a priori, est faisable. Entre guillemets, hein. On reste sur des choses qui pourraient être faisables.
Ouais, là on commence à vraiment toucher du doigt quelque chose dans le lurre, quoi.
Ouais. Non, ils ont assez poussé le truc. Il était très pointilleux, a priori.
Ok.
Donc je vous redonne les références. Donc c'est Mobile Suit Gundam Unicorn. Donc c'est au scénario, on a Harutoshi Fukui. C'est une adaptation de Kozo Omori. Et après, en plus au dessin, on a aussi, que je vous dise pas une bêtise, Yoshikazu Yasuhiko. Et c'est chez Vega Dupuis. Et c'est
parfait.
En seinen pour le coup.
Donc, en
seinen. Donc ça veut dire que c'est bien pour dire que c'est pas forcément trop enfantin. On est vraiment sur des histoires un peu plus poussées
c'est
que
plus mature, hein,
c'est plus mature, ouais. On va dire. Mais ça se lit sans souci. Hein. Il y a un peu de complexité, je pense quand même, de géopolitique qui peuvent vite arriver, à mon avis. Mais c'est ça qui peut être très sympa aussi.
Ouais, pour un adulte, ouais, ça peut être cool. Pour un enfant, bon, il passera à côté.
Il passera à côté, il verra tout le reste. Hein.
Ouais.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus.
Ok, ok. Je vais parler de... moi, je vais aller chez Pika Edition avec Wistoria Wand and Sword sur un scénario de Fujino Omori et un dessin de Toshi Aoi. Je te les passe. Alors, ils m'ont été envoyés par l'éditeur. Il me manque le tome 2 qui est perdu chez moi. Je sais pas où il est. Donc c'est pas grave, on va le retrouver. J'ai mis un petit moment à le lire. Là, on est rendu au tome 3. De quoi ça parle? Alors, toute similarité avec d'autres séries ou d'autres ambiances va peut-être vous sauter aux yeux. Mais il y a un petit plus. Faut imaginer un monde où la magie est reine. Il y a une académie de magie, tout le monde pratique la magie et le but est d'atteindre un certain statut, celui de Magia Vende, sauf erreur de ma part.
C'est ça. Tout à fait.
Qui n'est décerné qu'à 5 personnes qui sont les plus grands mages en fait de ce monde-là. Ces mages-là sont un socle qui permet à tout le monde de vivre puisqu'ils ont créé un bouclier qui permet aux humains de vivre malgré les difficultés qui peuvent se passer à l'extérieur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis on va suivre un personnage qui s'appelle Will Selfort qui a un petit problème en fait. Il sait pas faire de magie. Mais alors du tout. À tel point que ses petits camarades l'ont surnommé le magirien et qu'il se fait aussi brimer par un de ses profs. Mais pour devenir un Magia Vende, il faut plusieurs choses. Des points en pratique, des points en théorique et des points en terrain. Dans les faits, on peut arriver à devenir un Magia Vende en ayant plein de points dans deux des catégories et pas dans la troisième. Vous doutez bien que Will étant incapable de, c'est pas juste, il sait pas faire bien, hein, il n'arrive pas du tout à faire de magie. Hein. Que sans savoir faire de magie, en pratique, il n'aura jamais de points. Il est super assidu en théorique et en terrain, bah il va dans le donjon très régulièrement pour affronter des monstres. Et vous allez me dire, mais mon petit Seb, t'es bien mignon. Mais comment qu'il les affronte, les monstres, vu qu'il fait pas de magie? Eh ben, avec une épée. Parce qu'il est super doué à l'épée. Donc il va défourailler des monstres à l'épée. Et il est très très fort à l'épée. Plus que la moyenne. Plus que n'importe qui. Parce qu'il a des réflexes. Il sait lire les mouvements. Il a une endurance beaucoup plus forte. À tel point qu'on le compare parfois aux nains qui existent dans cet univers. Sauf qu'il a pas la stature d'un nain, la stature d'un enfant. Et pourquoi il veut devenir Magia Vende alors qu'il fait pas de magie? Bah parce qu'il a fait une promesse à la fille qu'il aime, qui vit en haut d'une tour, et qui elle est Magia Vende. Et on adore ce gamin qui se démène comme un dingo, qui est hyper humble, qui se fait moquer de lui dans tous les sens, qui calcule parce que il veut accumuler le plus de points et c'est juste génial. Moi je kiffe ce petit gamin. Et j'ai envie de le voir arriver au statut de Magia Vende et puis de faire clouer son bec à tous ceux qui disent « Tu pourras pas !» Et que si.
On est sur le shonen classique,
ouais.
Et qui fonctionne bien toujours. C'est le genre de choses qui est toujours agréable. On vient plein de petites refs à plein de choses différentes. Ça a l'air sympa. Les dessins ont l'air sympa aussi. J'ai regardé
les
et
dessins
tout,
sont... Vas-y.
Oui. On sait pas. Pas trop simpliste, parce que des fois, t'as certains shonen où ça peut l'être. Là, je trouve que ça a l'air cool. J'ai vu quelques cases de combat, ça a l'air dynamique aussi. Non, je pense que ça, il y a moyen que ça puisse être très intéressant et que ça soit un bon shonen d'action, comme on aime.
Ouais. Bah, c'est cool, c'est dynamique. T'as des combats qui sont assez rythmés et très lisibles. Ce qui peut parfois devenir très brouillon dans certains mangas. Là, ça reste très lisible. Et les chara-designs sont cool. Will, quand on le voit en version étudiant, il est toujours timide et compagnie. Et puis quand il met les lunettes qu'on lui a offertes quand il était plus petit et puis qu'il commence à sortir son épée, on a un côté très badass. Mais c'est subtil. C'est pas One Punch Man où on a vraiment le neuneu et le héros ultra balèze. Là, on a un truc beaucoup plus subtil qui marche très bien. Alors, petit bémol, mais ça, maintenant j'y fais un peu plus attention. On a quand même un petit peu de fan service avec les personnages féminins, mais c'est pas très appuyé.
Ok.
Bon. Voilà, c'est des personnages féminins avec des formes généreuses. Hein. Voilà.
Ouais, comme souvent. Mais bon. Des fois, c'est un peu le bémol qu'on peut avoir, en effet.
Donc c'est une série que j'y mets comme beaucoup en fait à chaque fois. J'ai mis un petit peu de temps à mettre dessus. Je trouve les couves un peu classiques, même si elles sont pas dégueulasses. Hein. Mais il m'a pas attiré plus que ça au départ. Et en fait, c'était une belle surprise.
Ouais, c'est vrai que quand tu me les as passées, j'étais en train de me dire bah s'il y a pas quelqu'un qui t'en parle, ça peut être noyé un peu dans la masse parce que toutes les sorties de manga qu'il peut y avoir. On n'a pas quelque chose qui sort plus que ça visuellement, même si en effet, hein, comme tu dis, c'est pas moche, c'est propre et tout ça, mais il y a rien qui ressort de particulier.
Mais allez-y, si on vous l'a pas conseillé, moi je vous la conseille, c'est vraiment cool. En France, du coup, on vient d'avoir le volume 3 là qui est sorti il y a le 8 janvier.
Oui,
donc c'est récent. Tout récent. Et en VO, c'est toujours en cours. Il y a 11 tomes actuellement. Et ça a débuté en 2020.
Ok.
Donc c'est une série qui est quand même plutôt récente. Et puis si jamais vous trouvez que c'est cool et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il y a un animé qui est sorti sur Crunchyroll. La première saison est sortie en juillet 2024, donc quasiment conjointement avec la sortie du tome 1. Et la saison 2 est en cours de production et devrait sortir dans pas trop trop longtemps. Donc voilà.
Ok.
Puis pour vous donner encore un peu plus envie, je vous propose d'écouter le générique. L'opening s'appelle Fire and Fear. 怖いがまた目を開くことが憎いが一言みたいな自分が才能がないことを知ったって逃げ延びるわけになるのか内側に響くこの悲鳴に答えてやれるのは誰だ Fire and Fear, l'opening de Wistoria, Wand and Sword, toujours mon faible accent anglais, disponible sur la plateforme Crunchyroll et en version papier chez Pika Édition. Voilà, voilà. Je vais pas parler du Maître du Monde, j'en reparlerai une autre fois. J'avais un filler à faire avec une autre BD. Je vais revenir sur un truc qu'on avait abordé, mais qu'on n'avait pas développé, à savoir Magical Quadra, publié chez Vega Dupuis, avec un scénario de Maki et un dessin de Nemumi Aiba. Écrivez plus gros s'il vous plaît, parce que je l'ai vu qui baisse. Merci. Comment dire? Je te les passe, je vais pouvoir le résumer comme ça. De quoi ça parle Magical Quadra? Magical Quadra, en fait, ça parle d'un monde où les sorcières existent. Pour lutter contre les sorcières, il y a des Magical Girls. Ces Magical Girls ont plein de pouvoirs, sont médiatisées, tout va bien. Mais, une fois que la sorcière est vaincue, elle a ses sbires, ses familiers, qui perdent tout contrôle et qui sont beaucoup trop forts pour les Magical Girls. C'est à ce moment-là qu'interviennent les Magical Quadra, qui sont là pour faire que tout se passe bien après. Et ce ne sont pas forcément des filles. Là, en l'occurrence, c'est un quadra, mais cadre pour quadra pour cadre, pas pour vieux, en fait, à la base.
Ah d'accord, moi je le voyais, mais Quad Drive, court quarantenaire.
Mais on joue là-dessus complètement en fait. Et ça reste, enfin c'est très drôle, puisqu'on va suivre un petit monsieur qui a tout du quadra, du salaryman japonais d'un certain âge, les débuts de calvitie, grosses lunettes, petit trapu, enfin tu vois le personnage qu'on n'a pas envie, et qui pourtant a des pouvoirs de Magical Girl. Ça c'est l'histoire de base en fait. Et on va suivre en fait ce personnage qui cache un secret. Il y a une sorcière qui aurait été tuée il y a très longtemps et qui peut-être pourrait revenir. Il y a plein de petits mystères comme ça. Moi ce que j'aime bien, alors c'est pas le manga du siècle, hein. Alors je précise du coup que le tome 1 je l'ai acheté moi et les tomes 2 et 3 m'ont été envoyés par Vega. C'est pas le manga du siècle, clairement pas. Mais c'est très drôle parce qu'on va jouer en fait sur tous les codes liés au Magical Girl et à la fanbase qu'il peut y avoir. La fanbase, souvent un petit peu quadra, hein, et un peu cringe parfois, et ça marche assez bien en fait. On va nous présenter plein de personnages qui sont très hauts en couleur. On a un des Magical Quadra qui est un lord anglais qui se ressource au thé. Plus il boit du thé, plus il devient costaud, ce qui est complètement barjot. Il y a plein de trucs, il y a plein d'idées, c'est très drôle. Je ne le conseille cependant pas un jeune public, ado, début ado, puisqu'on a des références à des trucs qui sont parfois un peu trop cringe ou voire un peu trop tendancieux, sans pour autant basculer dans le côté gore ou érotique. Il y a quelques petites références qui, selon moi, sont un peu complexes pour un public plus jeune. Enfin, okay. Faut éviter de les exposer. Et ce qui m'amène à une des questions que je m'étais posée, qu'on s'était posée à l'antenne, c'est que la couverture du tome 1 et les couvertures des tomes 2 et 3 sont très, très différentes. Sur la couverture du tome 1, on voit le Magical Quadra avec sa petite baguette sur un fond rosé avec, je sais plus, il y a des explosions derrière. Et on passe sur des jolies filles à...
Très forte poitrine.
Très forte poitrine. J'ai cherché comment le dire de manière...
Ouais, bon là, je crois que là, c'est ça. Hein.
Voilà. Clairement. Et pareil sur la couverture du tome 3. Il y a... voilà. Et je me posais la question du pourquoi. Il y a une raison. Je vais vous la dévoiler ici. C'est parce que, en fait, un Magical Quadra peut se transformer. Il peut avoir un mode bishonen et il devient une Magical Girl avec des atours de Magical Girl. Et plus sa différence physique est importante d'avec son apparence de départ, plus il est puissant. Il faut savoir que les personnages qu'on voit sont des Magical Quadra.
Ok, donc ça explique un peu ses couvertures.
Voilà. Puisqu'il joue dans le fantasme et le cliché pour obtenir des pouvoirs de plus en plus puissants.
Là, on est bien dans le cliché quand même, hein, quand on voit les couvertures.
Ouais, mais quand je dis qu'on joue justement sur les codes, là, ça marche complètement.
Si
mais
c'est bien inclus dans l'histoire et tout, ça peut être bien drôle.
Et je pense que c'est le risque avec cet ouvrage-là, c'est de le lire trop au premier degré, de ne pas justement connaître les codes du Magical Girl et de pas trouver le côté très ironique de ce manga.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En effet, là, je pense qu'il faut vraiment pas le prendre au premier degré parce que sinon, ça passe pas, quoi.
Ça passe pas, ouais. Mmh. C'est en cours au Japon. C'est sorti en 2022 avec 4 tomes actuellement, 3 tomes en France. Donc, on va, à mon avis, avoir un petit gap à attendre si on veut avoir le reste de la série. Voilà, voilà. Donc, Magical Quadra, c'est de Maki et de Aibame Nemumi. Trop de M dans et c'est publié aux éditions Vega Dupuis. Voilà, voilà. Eh ben, on est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui, écoute, super.
That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. On vient de passer une heure à parler de comics, de manga et de BD franco-belge. On va faire un petit rapide résumé. On a parlé d'Albert Roche, héros de guerre chez Grand Angle. On a parlé de Pas de Lézard aux éditions Oxymore. On a parlé de Dino DC aux éditions Le Lombard.
On a parlé de Mobile Suit Gundam Unicorn aux éditions Vega et de Submersion aux éditions Sarbacane.
On a parlé aussi de Wistoria One Ounce World aux éditions Pika et de Magical Quadra aux éditions Vega. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ces albums, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toi aussi, Fabien?
Bah oui, écoute, c'était top. Et puis on se retrouve dans deux semaines.
Et oui, et en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rappelez vite! Il n'est pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! So bright, so bright, that I forgot about the dark.
Everything went back to how it was, but nothing ever felt right.